Rayon libre.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein? Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein? Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein?
Rayon libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge, hein?
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme le générique vient de vous le dire, vous êtes sur Cause Commune 93.fm. Il est 14h, c'est Rayon Libre, je suis Jérôme Sorel. Et cette émission, quand même, pour être très honnête, elle est enregistrée mercredi 9 octobre 2024 à 9h pétante. Cette semaine, eh ben, en transition professionnelle, mais avant, Rayon Libre et Cause Commune s'écoutent en streaming sur notre site web cause-commune.fm. Elle s'écoute en podcast aussi sur toute bonne plateforme, y compris YouTube désormais, via l'appli cause-commune, appli qui est disponible sur iOS et Android, parce que nous faisons de la radio. Vous pouvez aussi, bien sûr, nous écouter en DAB+, et sur la bande FM, 93.1 FM, dans votre voiture, par exemple. Rayon Libre et Cause Commune existent parce qu'il y a des hommes et des femmes, probablement aussi des personnes non-binaires, pour vous proposer une programmation intelligente, différente, pertinente et surprenante. Il y a bien sûr Olivier Gréco, qui est le directeur de l'antenne. Il y a Abel Guggenheim aussi, qui viendra conclure l'émission. Il y a un peu de Wills toutes les semaines également. Il y a auditeurs et les auditrices. Il y a des invités qui ont des choses à dire. Merci à vous tous et à vous toutes. Pour finir, avant de passer à l'édito, vous n'écoutez que Rayon Libre sur Cause Commune. Quelle erreur! Et si vous essayez, par exemple, l'émission Patapoum un dimanche soir sur deux, cultivez votre curiosité musicale, bande de gredins. Un édito qu'Abel aurait probablement pu écrire. Il dit souvent, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Cette maxime est attribuée à Descartes ou Albert Camus, peu importe, on s'en fout un peu. Abel Guggenheim évoquait souvent cette phrase quand on nomme vélo électrique à la place d'un vélo à assistance électrique. Aujourd'hui, mon sujet est un peu différent. Je vois souvent, de plus en plus, je sais pas, mais souvent des images ou des métaphores malheureuses à propos du vélo. Il n'y a pas longtemps, sur LinkedIn, Stijn van Oosteren, qu'on a reçu plusieurs fois ici, écrivait à propos d'un vélo de route qui va vite, je le cite, « une véritable machine de guerre ». Fin de la citation. Cette semaine, c'est une plateforme de vélo d'occasion qui a fait sienne cette phrase. Je les cite, « inutile au garage, une tuerie dans le bocage ». On peut aussi entendre à propos de vélo orienté performance, la comparaison à un véritable missile ou encore un avion de chasse. C'est d'ailleurs ce qu'est un SPAD. Un SPAD, c'est un avion dans les années pendant la guerre 39-45. Moi-même, je peux parfois utiliser le mot bombarder. Ce vélo, qu'est-ce qui bombarde? Je vais vous faire une confidence. Ces images, métaphores, elles me choquent et elles me heurtent. Je les trouve ni heureuses ni flatteuses. Cessons ces métaphores guerrières, militaires, belliqueuses. Apaisons donc le vélo, surtout quand on évoque un vélo, une machine bien inoffensive. Beaucoup d'images rapportées sur les terrains de guerre de Gaza à l'Ukraine, pour en citer deux, où on, bien souvent, quand il ne reste plus rien, eh ben, il reste des vélos. Non, une piste cyclable défoncée n'est pas Beyrouth ou Bagdad, elle est simplement défoncée. Laissons ces comparaisons guerrières et militaires aux automobilistes qui conduisent un tank ou un char d'assaut. Peut-on comparer un vélo à une fusée? Allez, d'accord, peut-être, pour explorer son espace à son rythme alors. Étonnant ou pas, ces images militaires sont souvent employées par des hommes, comme si la virilité devait passer par un langage guerrier. Non, vraiment, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Et mon invité du jour, comment est-ce qu'il nomme son vélo? Comment nomme-t-il les vélos? Est-ce qu'il bombarde sur son vélo? C'est la première question que je vais poser à mon invité. Il a décidé de changer de vie, de se poser, il a pris du temps et son courage à deux mains pour changer de métier. Il veut travailler dans le monde du vélo, il est actuellement en cours de formation. Nous profitons d'une pause de quelques jours dans sa formation pour l'interroger. Pourquoi changer? Pourquoi apprendre? Pourquoi le vélo? Une solution pour vivre un temps différent. Bonjour Gilles Brossier, merci d'être au micro avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
Alors Gilles,
c'est un plaisir aussi.
Eh ben c'est partagé. Gilles, vous, est-ce que vous bombardez sur vos vélos qui sont des véritables machines de guerre?
Absolument pas. Non, moi je suis plutôt vélo déplacement, vélo balade. J'aime bien observer les choses, donc j'aime pas aller vite, même avec un vélo à assistance électrique.
Même, d'accord. Et pourtant, vous prenez un vélo à assistance électrique pour aller plus vite ou pas?
Pour aller plus sereinement et pour aller plus loin. Parce qu'à la base, j'ai un Brompton. J'ai fait beaucoup de vélo taf avec un Brompton.
Ouais.
Donc, pour le côté pratique, utilitaire et efficace aussi.
Ouais.
Et puis, à un moment donné, est venue l'envie de moins transpirer, le vent de face et aussi d'explorer aussi le vélo assistance électrique. Donc, voilà.
D'accord, donc si vous avez fait le mouvement entre guillemets, qu'on pourrait imaginer un peu inverse, c'est-à-dire commencer sur un vélo musculaire et prolonger sur un vélo assistance électrique.
Après, mes pratiques ont changé parce que le Brompton, c'était vraiment vélo taf. Donc, ouais. Je faisais vélo bus le matin, vélo retour sur une dizaine de kilomètres.
Ouais.
Et après, bah, justement, j'ai une interruption dans mon travail. J'ai quitté mon travail, donc les pratiques étaient différentes. Et là, j'ai vu, en tout cas avec mes conditions physiques actuelles, les limites du Brompton et puis l'envie d'autre chose aussi.
Ouais. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que on se rend compte que le vélo et la manière dont on aborde le vélo et même le vélo parfait du lundi en 2020 n'est pas forcément le vélo parfait du mardi en 2024.
Ouais, après c'est un changement de pratique, un changement de vie, un changement de, d'organisation. Et puis ça a été l'occasion aussi d'aller beaucoup plus loin, ce que je n'osais pas forcément faire avec un Brompton.
Ouais.
Je suis passé de 16 pouces à 20 pouces, c'est quand même énorme. Je voulais être un peu plus confortable et en fait c'est plus le déplacement. L'endroit que je vais visiter que la pratique sportive qui m'intéresse.
Ouais, d'accord. Voilà. C'est plus la destination, finalement.
Voilà. Et puis le trajet aussi, quoi.
C'est, ouais.
Ça aussi.
Et vous avez donc fait de la multimodalité avec votre petit vélo pliant. Comment, initialement, est-ce que vous vous souvenez, comment la décision de vous mettre au vélo et d'associer le vélo au transport en commun, etc., elle est venue?
Oui, c'était il y a déjà un petit moment. En fait, moi, je faisais le trajet en transport en commun complet. Donc après, j'ai eu l'idée, j'avais une portion qui était de 800 mètres à pied, qui n'était pas très amusante. Donc j'ai commencé par un test en trottinette,
ouais.
Qui n'a pas du tout été concluant parce que je forçais trop dessus, en fait. Et
ouais.
J'ai eu même un petit peu, je me suis fait mal au talon.
Ouais.
Après, il y avait des solutions de location de vélo sur la ville de Nantes où j'habite.
Ouais.
Donc j'ai commencé par un Strida.
Oui, on voit très bien, c'est des vélos qui ressemblent un peu à un parapluie une fois qu'il est plié.
Exactement, ouais. Et puis une sorte de triangle bizarre. Donc
ouais.
c'était bien pour des petites distances, mais il m'est venu à l'idée à un moment donné, quand on commence à faire du vélo, on va faire un cran plus loin.
Ouais.
Donc je me suis dit, je vais aller de là où j'habite, dans le centre-ville, pour éviter les correspondances.
Ouais.
Et en fait, je me suis rendu compte que là, c'était vraiment limité.
Oui.
Et puis, de toute façon, la location du Strida s'est terminée. Il y a eu un autre opérateur, et là, qui a proposé des Brompton.
Ouais.
Et il se trouvait que le Brompton, on en avait parlé, la Rolls-Royce du vélo pliant,
ouais.
Tout ça. Donc, je me dis, c'est génial. Après, le coût était prohibitif à l'époque pour moi, et donc, il y avait la possibilité de louer un Brompton.
D'accord.
Et à partir du moment où j'ai commencé à rouler sur un Brompton, j'ai plus voulu me passer d'un Brompton. Donc, et c'est là que j'ai commencé à faire de plus en plus long, en fait. Avant,
ouais.
Je faisais vraiment du vélo transport vélo. Et après, je me suis dit, le retour, je vais faire complètement à vélo parce que ça monte à l'aller, ça descend au retour.
Ouais.
C'est plus pour une raison de conditions à l'arrivée. C'était plus gérable pour moi, faute d'avoir des locaux de travail adaptés, de faire le trajet vélo taf complet au retour.
Ouais.
Et donc j'en ai terminé à faire à peu près une quinzaine de kilomètres par jour en vélo.
Ok, alors je précise, on cite beaucoup la marque Brompton, mais cette émission n'est pas sponsorisée par Brompton.
Non, pas du tout.
Il y a plein d'autres vélos pliants qui sont hyper bien, en 16 pouces, en 20 pouces, en 18 pouces,
exactement.
Électrique ou pas électrique, etc. etc. Revenons au sujet du jour et l'envie qu'on avait d'échanger au départ. C'est vous êtes c'est un peu ce que j'annonce d'ailleurs aussi dans l'édito. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire une formation, c'est ça? Pour apprendre un nouveau métier, c'est quoi cette formation?
Tout à fait, donc c'est une formation de mécanicien cycle. Donc
oui.
je la fais en formation continue. Donc c'est 9 semaines de formation, théorie et bien sûr atelier. Et dans l'eau, il y a également en plus un stage de 3 semaines en entreprise.
En entreprise. Alors on reviendra en deuxième partie de l'émission sur ce que vous apprenez, qu'est-ce qui vous surprend, qu'est-ce qui vous déçoit. Mais
d'accord.
Ce qui m'intéresse là, c'est qu'est-ce qui se passe dans votre tête en vous disant tiens, j'ai envie de devenir mécano ou d'avoir cette formation?
Il y a eu clairement une pause professionnelle parce
ouais.
que un épuisement professionnel.
Est-ce que je peux vous poser la question? Elle est subie, cette pause professionnelle, ou elle est choisie?
Subi. Après coup, je me suis dit que j'aurais mieux fait de la choisir, mais c'est toujours pareil. Mais elle est subie, clairement. Il y a eu... ça faisait pas mal de temps que je commençais à souffrir au travail, on va dire. Et après, il y a eu un Covid fin septembre de l'année dernière.
Et là, vous avez été atteint du Covid, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Okay. J'ai eu un Covid pas très important, mais qui m'a vraiment impacté physiquement. J'ai mis quasiment un mois et demi à me remettre physiquement et mentalement, d'une certaine façon. Ouais. Et là, ça n'a plus été possible de reprendre, en fait. Donc là, il a vraiment fallu faire une pause. Donc j'étais en arrêt de travail. Et puis j'ai mis plusieurs mois à me remettre, je dirais. Ouais. Et à un moment donné, un matin, il y a une idée comme ça qui était un peu routine, pourquoi pas le vélo. Ouais. Donc c'était une sorte d'éclaircie dans le brouillard. J'étais voir s'il y avait des formations, parce que j'y connais rien en mécanique vélo. Enfin, je connais un minimum, mais je...
Vous savez à gonfler vos pneus, quoi.
Voilà, c'est ça. Et réparer mes pneus. Allez. Mais ça va pas beaucoup plus loin. Après, je faisais entretenir mes vélos. Et j'étais voir, tiens, il y a des formations, hein, c'est chouette. J'ai mis ça de côté. J'étais pas encore prêt à me mettre dans tout ça. Et c'est arrivé presque par hasard. Il y a une amie qui m'a posé la question. Tiens, est-ce que t'as, qu'est-ce que, où t'en es? Qu'est-ce que tu veux faire? Je m'intéresse au vélo. Elle m'a dit, ça tombe bien, je connais quelqu'un qui. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, en fait. J'ai été croiser quelqu'un qui s'était intéressé justement à cette reconversion, qu'il n'avait pas faite lui-même, mais qui avait vraiment creusé le sujet, qui m'a branché sur une autre personne, et puis voilà, d'après, j'ai été voir de personne en personne, j'ai été un petit peu valider mon idée et préciser si c'était jouable. Au début, j'avais vraiment un doute sur la faisabilité. Est-ce que c'était judicieux? Est-ce que c'était adapté? Est-ce que, voilà.
Quand vous posez la question de est-ce que c'est judicieux, adapté, est-ce que c'est possible? C'est quoi? Est-ce que c'est possible à mon âge d'apprendre, ou est-ce qu'il y a des formations, ou est-ce que c'est un peu plus, entre guillemets, un peu plus long terme, en se disant, mais est-ce que c'est un métier qui est raisonnable de faire, et est-ce qu'il y a du débouché, etc. Enfin, vous voyez le sens de ma question?
Tout à fait. Donc après, clairement, formation, j'avais vu qu'il y en avait, donc ça m'a effectivement rassuré. Je pense que je ne me serais pas lancé sans ça, parce qu'il me fallait un point de départ, quoi. Ouais. Et c'est clair que là, je le vois bien. Le côté, porteur, là, au moins, j'avais pas de doute là-dessus. Vu le nombre de vélos à circuler, vu le développement de la filière vélo l'écosystème autour du vélo qu'il y a dans ma ville à Nantes, j'avais pas tellement de doute. C'était plus, effectivement, mon âge. Ma capacité en formation, je pense qu'à suivre une formation, ça je le voyais bien parce que je suis moi-même formateur. Donc je savais dans quoi je m'engageais, en tout cas, je n'avais pas eu de surprise de ce côté-là. Mais c'était vraiment au départ, est-ce qu'à mon âge, je peux intéresser les employeurs, entre guillemets, est-ce que c'est adapté, est-ce qu'il y a beaucoup de gens en reconversion? Donc c'est plutôt ces questionnements-là que j'avais. En fait.
Est-ce que je peux vous demander à peu près votre âge, Gilles? À peu près, on n'est pas deux mois près.
À peu près plus de 50 ans.
À peu près, d'accord. On est à la mi-temps de Cause Commune, donc ça va être le moment de l'agenda et de la pause musicale, et on se retrouve évidemment après tout ça, Gilles. Donc on est toujours sur Cause Commune, dans Rayon Libre, c'est le moment de l'agenda, que voir, que faire, que lire, où aller avec son vélo, sa bicyclette cette semaine. Et bien déjà, moi je vous recommande d'aller au cinéma, l'histoire de Souleyman qui est sortie le 9 octobre, le pitch, tandis qu'il pédale dans les rues de Paris pour livrer des repas. Souleyman répète son histoire, dans deux jours il doit passer son entretien de demande d'asile, le sésame pour obtenir des papiers. Mais Souleyman, il n'est pas tout à fait prêt. L'histoire donc d'une économie Uber, d'un homme surtout. Je relance mes appels à Boris et Abou, Boris qui est le réalisateur de ce film, et Abou qui a eu un prix d'ailleurs au Festival de Cannes, je crois. Et ben j'aimerais bien que vous veniez nous raconter tout cela au micro de Rayon Libre. Et puis nous, l'ubérisation et la livraison, on en parle de temps en temps sur Rayon Libre. Et puis ce soir aussi, alors ce soir c'est lundi soir, hein, à Bagneux, un ciné-débat, détails sur le site de Cause Commune. Et le 19-10, une bourse au vélo à la mairie du 14e. Idem, info sur le site de Cause Commune. Vous êtes toujours sur Cause Commune, 93.1 FM. Avant de reprendre notre échange, une respiration. Tulum, Mexico, par Yosman et Sofiane Pamar. On se retrouve dans 3 grandes minutes. Allez, on se retrouve à tout de suite.
fait que chercher mon chemin, ça me court sur le haricot. C'est peut-être la fin des haricots, c'est peut-être la fin des haricots. J'ai croqué la pomme, le seum mange comme l'asticot. Moi j'ai pas le cœur d'artichaut, j'suis là pour ton abricot. Tulum, Mexico, j'bois le veuf cliquot. Tulum, Mexico, Tulum, Mexico. J'fume et ça m'apaise, j'paye pas les frais médicaux. J'm'isole dans la jungle, j'fly à Tulum, Mexico. J'fais que chercher mon chemin, ça me court sur le haricot. C'est peut-être la fin des haricots, c'est peut-être la fin des haricots. J'ai croqué la pomme, le seum me mange comme l'asticot. J'ai pas le cœur d'artichaut, j'suis là pour ton abricot. Tulum, Mexico, j'bois le veuf cliquot. Tulum, Mexico, Tulum, Mexico. J'fume et ça m'apaise, j'paye pas les frais médicaux. J'm'isole dans la jungle, j'fly à Tulum, Mexico. Y'a mes empreintes sur internet, y'a mes empreintes dans le comico. Dans le club, j'suis là, j'souris pas, j'suis fier comme un parico. La vie, c'est pas Haribo. Non, c'est pas comme ça la Eve. Y'en a qui se foutent en l'air, j'veux que la affaire, Air Caraïbe. Fly, baby, tu sais que j't'apprécie, mais j'serais pas ton Roméo. J'mets de la monnaie sur le déco, j'rêve d'une meilleure météo. J'ai pas confiance à demain, ni au destin, ce sale escroc. J'ai trop les crocs, j'veux tout le gâteau, n'est que faire d'un simple croc. J'suis dans le sky comme hélico, mon avion j'décolle illico. Sans ça, j'ai la dos, j'fais des rêves d'Eldorado. Ils disent que demain c'est loin, mais je n'attends rien, moi je n'attends rien de demain. Voilà qui t'as, j'arrive à Tulum, Mexico. J'fais que chercher mon chemin, ça me court sur le haricot. C'est peut-être la fin des haricots, c'est peut-être la fin des haricots. J'ai croqué la pomme, le seum me ronge comme l'asticot. J'ai pas le cœur d'artichaut, j'suis là pour ton abricot. Tulum, Mexico, j'bois le veuf cliquot. Tulum, Mexico, Tulum, Mexico. J'fume ça m'apaise, j'paye pas les frais médicaux. J'm'isole dans la jungle, j'fly à Tulum, Mexico. Tulum, Mexico, Tulum, Mexico. Tulum, Mexico, Tulum, Mexico. Tulum, Mexico, Tulum, Mexico. Mexico, j'prends le prochain vol sur un coup de tête. Ici bas c'est la tempête. Je veux voir le monde, j'fais mon enquête. Champagne dans l'Airbus, j'ai bien mangé, j'suis allongé. UMC, GMT, j'peux pas parler, j'suis jet lagué. Mama si t'as me fait du pied, soyez le fuego que arde tout pied. Elle a compris qu'on est des hommes, elle me dit je t'aime en espagnol. Sous la lune, sous la clé de sol, des souvenirs qui me désolent. Les fleurs fanées ont jonché le sol, les fleurs fanées ont jonché le sol.
Et oui, ces choix musicaux, souvent, hein, je demande à mes enfants ce qu'ils écoutent. Et là, c'est Ellie qui m'a fait découvrir Tulum, Mexico. Coucou Ellie. Coucou, toujours aussi à vous, auditeurs, auditrices, toujours sur Cause Commune 93.1 FM. Reprenons avec Gilles Brossier. Il est en pleine formation mécano, ancien formateur. Il est passé de l'autre côté du pupitre à 50 ans ou un peu plus pour apprendre à devenir mécanicien. Vous êtes toujours là ?
Toujours là.
Toujours là. Gilles, est-ce que c'est facile de passer de l'autre côté, justement, du pupitre ?
Non. non, c'est pas facile.
Parce que vous êtes en plein dedans, là. Hein. Vous êtes en plein dans la formation et c'est une pause pendant quelques jours parce que je crois que vos formateurs vont au Rock d'Azur, si j'ai bien compris.
Exactement, ouais. C'est exactement ça. Non, c'est pas facile. Après, je sais comment ça marche. Donc, je me suis pas trop fait surprendre, effectivement. Après, il fallait faire attention à pas trop intervenir, par exemple, à pas trop prendre la parole, à pas, voilà. Il fallait me remettre dans la posture du stagiaire, de l'apprenant. Donc, ouais. C'était pas forcément facile. Après, c'est des petits groupes. Donc, on est une dizaine dans la formation continue. Les formateurs, ils sont deux. Donc, on se connaît bien. On est très proches. Donc, il y a quand même une proximité que j'avais pas, qui était différente dans ma pratique de la formation à moi, où il y avait des beaucoup plus gros volumes. Et donc, ce qui est difficile, ça a été aussi de trouver le bon rythme, en fait. Au début, j'étais beaucoup trop exhaustif dans mes notes. Je me perdais un peu. Je me suis complètement emmêlé dans les dérailleurs, notamment pas les dérailleurs, les boîtes de pédaliers, là, vraiment, boîtier de pédaliers, ça m'a... Je notais trop de choses, en fait. Ce qui est difficile pour moi qui débute, entre guillemets, c'était de trouver les notes qui me concernaient et pas forcément tout prendre en note, toutes les astuces, tous les détails, tous les éléments. Et au début, j'ai vraiment saturé beaucoup. Et donc, il m'a fallu une semaine ou deux pour vraiment trouver le bon rythme, le bon calage par rapport à la partie théorique.
Et pardon, le groupe dans lequel vous êtes êtes une dizaine, c'est tous les âges, tous les genres ?
Alors, tous les profils ? Est plutôt autour de la trentaine et plus. Ouais. Je dirais que la moyenne d'âge, elle doit être autour de 35. je suis clairement le plus âgé.
Vous êtes le daron.
Il y en a, voilà, c'est ça, exactement. Mais globalement, là, ouais, c'est entre 30 et 40. Voilà, il y a une femme et après c'est que des hommes et des gens qui viennent de un peu partout. Il y a des gens de Dunkerque, il y a pas mal de gens de Rennes, donc il y a des gens qui viennent d'autour et pas seulement en Nantes hein, ouais. pour suivre cette formation.
D'accord. Et le soir, le premier soir, alors j'aimerais bien. Est-ce que vous vous souvenez le premier matin et le premier soir? Le premier matin, vous étiez comme un élève à la rentrée des classes?
Oui, bah après c'était, ils ont fait ça comme moi je pouvais le faire, c'est qu'il y a un brise-glace qu'on appelle, ouais. Donc on a fait connaissance, ils ont présenté des choses. On n'est pas rentré tout de suite dans la partie haute théorie. Je crois qu'on a commencé par démonter les pneus. C'était le premier truc pour justement, on a visité l'atelier, tout ça. Ça, c'était le deuxième jour. Donc, le premier jour, il y avait première demi-journée de présentation et deuxième demi-journée, c'était les premiers éléments théoriques.
Ouais.
Voilà, ça m'a pas surpris. Mal à la tête, évidemment, après avoir passé plusieurs heures dans une salle assise à écouter quelqu'un sans forcément avoir une vision complète. Mais non, c'est le contre-coup, c'était vraiment la deuxième semaine où là, j'ai vraiment plus accusé le coup. Et ce qui est un peu difficile aussi par rapport à ce que j'ai vécu moi en formation, c'est que là, c'est beaucoup plus physique puisque en atelier, ben, on est debout tout le temps. En fait.
Oui.
Si on a une journée d'atelier, on est une journée debout en atelier.
Ouais.
Ça aussi, il a fallu trouver, faire attention à ses postures et trouver le être attentif justement à beaucoup de choses. Et c'est ça qui n'est pas facile. Il faut être attentif à la façon dont on prend les outils parce qu'au début, j'étais trop crispé, j'avais mal aux mains.
Ouais.
Mal au dos aussi, un petit peu. Là, justement, je vais aller voir un ostéopathe. et puis, il faut être attentif à plein de détails. On oublie plein de choses, on ne sait pas. Donc, c'est assez perturbant au départ parce que quand on part de zéro, c'est pas toujours facile.
Ouais.
Souvent, le premier abord d'un élément technique, on est vraiment... Moi, je suis un peu dans le flou. Et puis, on voit que le lendemain, bah, tout de suite, là, ça va mieux. Déjà, on comprend mieux comment ça se passe. C'est un peu plus efficace.
Qu'est-ce qui vous a surpris ou vous surprend positivement? Et la question d'après, c'est qu'est-ce qui vous déçoit ou vous a déçu? On va commencer commençons par la déception.
Déception, alors c'est plus... La formation en tant que telle, c'est vraiment ce que j'attendais. Je voulais quelque chose de manuel.
Ouais.
Et à la fois assez pointu techniquement, parce qu'il y a quand même des choses assez... Il y a des choses précises à respecter.
Ouais.
Ce qui me déçoit, c'est parfois le temps que je peux perdre pour une erreur.
Ah, mais c'est vous qui vous décevez, c'est pas ce que vous apprenez.
Oui, c'est pas la formation, mais ouais. C'est parce que ce qui est difficile, mais je pense qu'il n'y a pas le choix, c'est qu'il y a des choses qui sont empiriques. C'est-à-dire qu'on ne peut les apprendre qu'en faisant,
ouais.
Et au début, c'est très laborieux, parce que on fait des erreurs, et donc ça génère du temps supplémentaire, ça va nous prendre deux fois plus de temps pour faire une action qui aurait pris quelques minutes, ça va prendre une demi-heure ou plus.
Ouais, parce que vous n'avez pas respecté le process.
Ouais, ouais. Là, parce qu'on se fait surprendre,
ouais.
Parce que tout nouveau vélo est différent et peut apporter son lot de
surprises,
on va dire.
Ouais.
Et puis en plus, nous, on a des vélos dits pédagogiques, mais qui ont quand même été montés, démontés, donc ils ont quand même une certaine usure.
Ouais.
Et il y a des vélos récupérés qui permettent aussi de s'entraîner sur du vélo plus commun, on va dire.
Ouais.
Donc chaque vélo est différent et pour l'instant en tout cas, moi je peux me faire surprendre par un truc que je pensais connaître. Sur un nouveau vélo.
Ouais.
Clairement, pour l'instant, la difficulté pour moi, c'est ça, c'est ce côté apprentissage du faire en fait.
Oui, mais
théorie, ça tient en quelques lignes, quoi. Mon visser, dévisser, ça c'est très bien, mais le faire, c'est complètement différent.
Et une dernière question avant la parole à donner à Abel Guggenheim. Vous avez un projet en tête ensuite ou qu'est-ce que vous avez envie de faire après?
Pour l'instant, c'est en train de se préciser, je dirais,
ouais.
Mais pour l'instant, c'est travailler en atelier dans un magasin. Voilà, c'est pas beaucoup plus précis. Il n'y a pour l'instant pas d'auto-entrepreneuriat. Il faut que j'apprenne le métier, je pense. Et donc là, pour l'instant, c'est pas précisé encore. j'ai marge de manœuvre par rapport à ça. Il y a des sujets qui m'intéressent, mais il faut que je développe mes capacités d'abord.
Alors, c'est l'heure d'écouter Abel Guggenheim. Alors, l'émission est enregistrée, donc on ne connaît pas le sujet de la chronique d'Abel Guggenheim. Abel, c'est à toi.
Bonjour. Je vous parle aujourd'hui des doubles sens cyclables, DSC, du point de vue de leur historique et de leur réglementation. Pour les zones 30, un décret de juillet 2008 ajoute à leur définition dans le code de la route la phrase « Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ». Ce décret précisait que les arrêtés rendant localement applicable cette disposition dans les zones 30 alors existantes devaient être publiés au plus tard en juillet 2010, c'est-à-dire 2 ans après. Ça a pris en fait un peu plus de temps, mais à ma connaissance, c'est aujourd'hui presque généralisé. 7 ans plus tard, en juillet 2015, un autre décret étend l'obligation de double sens cyclable, là aussi sauf décision contraire de l'autorité responsable, à toutes les voies dans lesquelles la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 30 km/h. Ce nouveau décret ne donne pas de date pour la parution des textes et la mise en place des signalisations, et il semble que 9 ans après, beaucoup de ces rues ne soient pas autorisées dans les deux sens aux cyclistes. Leur nombre a même plutôt tendance à augmenter du fait que de nombreuses villes étendent ou généralisent actuellement la limitation à 30 km/h, ce dont on ne peut par ailleurs que se féliciter. Une question se pose donc, que peuvent et doivent faire les cyclistes dans une telle rue face à un panneau sens interdit sous lequel aucun panneau sauf vélo n'est placé? La réponse concrète est donnée par l'article R411-25 du Code de la route. Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation établie. Ce qui, dans ce cas, est pertinemment résumé par un participant d'un canal du Matermos de la FUB. En l'absence de panonceau, la municipalité est peut-être en tort, mais ça ne nous autorise pas à emprunter un sens interdit. Des cyclistes répondent parfois « Toute rue à 30 est en double sens cyclable par défaut, le maire doit prendre et motiver le contraire rue par rue ». Soyons plus précis, aucun texte n'indique que le maire doit motiver les rues dans lesquelles il n'autorise pas le double sens cyclable. Ce n'est pas particulier au DSC, ni même aux règles de circulation, c'est le principe même de la jurisprudence. Lorsqu'un texte établit une obligation ou une interdiction en autorisant l'autorité responsable à déroger à cette obligation ou interdiction, il ne contraint pas cette autorité à motiver chacune de ces dérogations, mais il l'oblige, si cette décision est attaquée, à pouvoir les motiver, montrant qu'elle respecte la loi dans le cas général et n'y a dérogé que lorsqu'elle avait de bonnes raisons de le faire. Si par exemple, comme c'est déjà arrivé, une commune interdit le double sens cyclable dans toutes ses rues, si cette décision est déférée devant le tribunal administratif, celui-ci demandera la motivation de ces dérogations et annulera sans doute la décision, non pas parce qu'elle n'a pas été initialement motivée, mais parce qu'elle n'aura pu être motivée lorsque cela aura été demandé. Je vous retrouve ici lundi prochain. D'ici là, dans le sens de la circulation générale comme en sens inverse, roulez prudemment.
Merci beaucoup Abel. Donc la dernière question pour vous Gilles Brossier. Gilles, alors on y apprend dans le baromètre de l'emploi vélo produit par Léry Jiquel en partenariat avec Wheels, l'un des enjeux pour les candidats est de travailler son réseau. Comment est-ce que vous vous y prenez vous?
Moi, vraiment la première chose c'est aller voir les gens.
Ouais.
Ça a vraiment été ça et c'est comme ça que ça a commencé. Et il se trouve en plus que c'est un milieu bienveillant. C'est vraiment ce qu'on m'a dit dès le départ et c'est ce que j'ai constaté. Donc moi j'ai été rencontrer des personnes qui avaient fait ce type de reconversion dans un premier temps.
Ouais.
Et ensuite j'ai fait des portes ouvertes, des centres de formation, et après j'ai été voir les vélocistes parce que je voulais avant la formation.
Ouais.
En fait, du moment où j'ai eu l'idée et où j'ai commencé mon inscription pendant 3 mois à peu près, c'est de mars à juin de cette année, j'ai fait une sorte de tour des professionnels du vélo. Ouais.
Et là aujourd'hui vous continuez à faire le tour des professionnels du vélo pour
non? Plus ponctuellement, ceux que j'ai pas pu aller voir, il y en a certains que j'ai notés et que j'ai pas été voir, donc il y a des magasins que j'ai envie d'aller voir, il y a des marques que j'ai pas vues, il y a des choses comme ça, donc on s'éloigne un peu autour de la périphérie, non ?
Ouais.
Mais c'est pas grave, ça m'intéresse d'aller voir.
Il faut qu'on rende l'antenne, même si on n'est pas
sûr
en direct, parce qu'après il va falloir que je coupe dans tout le fichier, dans toute notre discussion, ça va être l'enfer. Merci beaucoup Gilles Brossier d'être venu nous parler au micro de Rayon Libre. Auditeurs, auditrices, vous pouvez enfourcher votre vélo. N'oubliez pas d'aller pédaler. Une journée sans pédaler, c'est évidemment une journée gâchée. À la semaine prochaine avec Patrick Guinard, le nouveau président de la commission cycle au sein de l'Union Sport et Cycle. Peut-être qu'on parlera de l'emploi dans le monde du vélo. Restez sur 93.fm, cause commune, il est 14h30. Merci de votre fidélité, merci pour vos messages et vos commentaires et je vous dis à la semaine prochaine. Rayon Libre.